Le plan de notre... Il y aura trois grands temps dans notre conférence. Une première temps sera de vous donner des points de repère sur les populations silver aujourd'hui. De qui parle-t-on aujourd'hui et demain? Deuxièmement, on aura un temps sur comment adapter son point de vente. Donc ça va être la partie physique, là, pour offrir un parcours et une expérience client qui soit adaptée à la cible. Et on aura ensuite comment mettre en œuvre efficacement le e-commerce auprès des seniors. Donc les différents intervenants vont être là plus ou moins en majeur selon les moments de notre conférence. Donc tout d'abord, monsieur l'UED, quelques points de repère sur la démographie vieillissante. Je vous laisse prendre ici la main.
Super. Merci beaucoup. Écoutez, je suis très heureux, moi, d'être parmi vous là cet après-midi pour venir vous parler des seniors, des silvers, et donc commencer cette conférence sur ce thème par quelques éléments de cadrage. Alors pourquoi ces éléments de cadrage aujourd'hui faits par le Crédoc? Parce que en tant qu'entreprise d'études, on vient de finir une étude sur l'impact économique de la silver, enfin des silvers sur les dépenses de consommation. Que c'est cette étude, elle est réalisée sur 4 tranches particulières d'âge de silver, qu'on a estimé être des tranches qui avaient des comportements, des attitudes, des niveaux de dépenses différents en matière de consommation. Et donc, cette étude qui vient de sortir, on l'a présentée la semaine dernière, qui est en multi-souscription, permet de... Voilà. Permet donc d'avoir une image la plus fraîche possible de ce marché aujourd'hui. Alors, combien sont-ils peut-être d'ores et déjà? Vous voyez que en 2015, on est à 38% de la population qui a plus de 50 ans. On a en 2025, à l'horizon de 10 ans, une petite augmentation de cette population, puisqu'on va avoir 3 points de plus d'individus qui auront plus de 50 ans. Cette augmentation va se faire surtout après 65 ans, en fait, entre 75 et 85 ans, et notamment sur les 65-75 ans. C'est là que les augmentations seront les plus fortes en termes de croissance démographique. Donc ça, c'est le premier élément. Et ensuite, quand on regarde en termes de poids, eh bien, ça reste encore les jeunes silver, les 50-65 ans, qui sont les plus nombreux. Ils représentent 20% de la population française aujourd'hui, alors que les 65-75 représentent 11% de la population, 7% pour les 75-85 et 4%, un peu moins même, pour les 85 ans et plus. Donc on est sur une population qui va croître, une population qui, pour les plus jeunes des silvers, fera 20% de la population française, et puis une population qui va croître surtout sur les 65-75 ans. Donc quelques éléments comme ça juste pour cadrer. Ensuite, pourquoi avoir parlé de 4 âges différents de silver? Parce qu'en fait, l'effet d'âge est fondamentalement important sur ces générations-là. On a des comportements de consommation, des comportements liés au commerce, des comportements d'usage des produits qui sont fortement lié à l'âge, parce qu'en effet, chaque âge de silver va être lié à des étapes de vie importantes. On commence par être donc dans la première partie senior actif, qu'on a commencé à 50 ans, parce qu'en fait, c'est vraiment le moment où on commence à avoir des premiers problèmes de santé non importants, en règle générale, mais quand même présents sur le surpoids, l'obésité, le diabète, ce type d'éléments-là qui vont faire qu'on va réfléchir différemment à son mode de consommation, notamment dans des domaines comme l'alimentaire. On va aussi réfléchir différemment en matière de maison, d'équipement de la maison, parce qu'on va se dire, là, je peux encore investir financièrement sur ce secteur, parce que les banques éventuellement vont me faire un prêt, mais ensuite, ce sera plus difficile. Donc, on a des moments là qui sont particulièrement importants. Enfin, 50 ans, ça reste l'âge du départ du premier enfant. Donc, Tanguy, en allant enfin de la maison, on peut délibérer de l'argent pour réussir à faire un certain nombre de projets en matière d'investissement dans la maison ou à décider d'avoir plus de loisirs. Le deuxième élément qui fait qu'on sort de cette partie senior active, c'est l'arrivée justement à la retraite, dans lequel on va rentrer en étant un jeune retraité entre 65 et 74 ans. On a là des gens qui vont avoir une baisse de leurs revenus conséquente et qui savent que cette baisse de leurs revenus, elle va être de plus en plus importante, c'est-à-dire qu'ils vont perdre du pouvoir d'achat dans les années à venir. Et donc leur rapport à la consommation est en train de se transformer. Ils ont à la fois plus de temps, plus un niveau de santé qui leur permet de faire plein de choses, mais une contrainte financière qui du coup va être relativement importante ou en tout cas vécue comme telle. Donc le rapport au prix va être une dimension importante pour eux. Elle l'était fortement chez les seniors actifs, elle le deviendra chez les jeunes retraités. Ce sont des gens qui vont chercher à avoir beaucoup de loisirs, à occuper énormément leur temps libre. Et vous avez des marchés qui, particulièrement sur ce secteur des loisirs et des vacances, vont se développer chez ces silvers. Après arrive une troisième étape des silvers, qui est l'étape des retraités âgés, mais en couple. Alors âgés pourquoi ? Parce que là on commence à avoir vraiment des conséquences, des problèmes de santé. On a mal au dos, on a mal aux articulations, on a mal aux mains, on a plus de difficultés à se déplacer. Alors on arrive à se déplacer sans problème dans sa maison, mais parfois en dehors, on va faire des arbitrages entre sortir, aller faire une activité en magasin, aller faire une activité de loisir, ou rester chez soi parce que il a plus le jour d'avant et donc on a un peu mal partout. Et donc du coup, l'effet de l'âge sur les dépenses de consommation est particulièrement important, commence particulièrement à se faire ressentir à partir de 75 ans avec une diminution des dépenses de consommation chez ces silvers. Un autre élément, c'est qu'on a, on s'est aperçu que les produits étaient assez peu adaptés à cette tranche d'âge qui voit moins bien, appréhende un peu moins bien les produits, à la fois cognitivement mais aussi avec ses mains. Et il est nécessaire d'avoir une réflexion forte sur le design universel au niveau de ces silvers si on veut qu'ils continuent à pouvoir acheter et consommer nos produits. Dernière étape de ces silvers, les 85 ans et plus, où là on est sur des gens qui sont réellement âgés, on commence à voir poindre la dépendance où elle est présente, et on est surtout seul. Et donc du coup, l'appétence à consommer est partie. On ne s'intéresse plus réellement aux motivations d'achat que peuvent être la marque, le label. On rachète un produit lorsqu'il est cassé, lorsqu'on a besoin de le changer. Et on est sur beaucoup de dépenses sur l'intérieur du logement pour adapter son logement aux conséquences du vieillissement. Voilà très succinctement les quatre âges de Silver que nous avons donc vus liés aux effets d'âge. Mais il y a aussi un effet de génération qui fait que les jeunes silvers qui arrivent aujourd'hui ont été des gens qui ont baigné dans la consommation tout au long de leur vie, qui ont eu l'habitude d'avoir des messages marketing, des messages de publicité, qui ont testé un certain nombre de commerces, notamment l'hypermarché, le hard discount pour les plus jeunes d'entre eux. Et donc du coup, ce sont des gens qui sont des experts de la consommation. Donc là, vous allez pouvoir discuter avec eux, échanger avec eux comme vous le faites classiquement et habituellement avec les autres tranches d'âge plus jeunes. Par contre, pour les plus âgés, ça n'est pas le cas. La consommation est venue, la société de consommation est venue à un âge où ils étaient déjà adultes. Et donc du coup, le mode de consommation, le mode de communication, le marketing que vous devez aller vers eux est beaucoup plus un marketing informatif, beaucoup plus un marketing qui va multiplier les canaux d'accès vers ses clients et qui va privilégier quand même encore fortement le téléphone, la voix, le face-à-face chez ces populations. Alors, j'ai un autre élément qui a fait que nous avons décidé de créer ces quatre tranches d'âge, c'est que sociodémographiquement, on n'a pas les mêmes catégories de silver. Chez les 50-64 ans, nos jeunes silvers encore actifs, on a des gens qui sont encore en couple, qui ont encore pour 29% d'entre eux un enfant à la maison, qui sont des gens relativement plus diplômés que le reste de la population des silvers. On a 22% de diplômés du supérieur, c'est la proportion la plus importante qu'on a parmi les 50 ans et plus. Et ce sont des gens qui ont des métiers, pour un certain nombre, qui sont des métiers de décision, donc qui vont avoir un comportement en matière de consommation qui va être aussi un comportement actif, fortement actif. si on voit les 65-74 ans, bah là du coup les enfants sont partis, c'est évident, donc on est sur des gens qui vont penser à eux plus particulièrement dans le sens individuel ou dans le sens couple. On est des gens, qu'on a des gens qui sont légèrement moins diplômés que ces plus jeunes, on a une proportion plus importante que dans le reste de la population de commerçants et artisans. Donc des gens qui ont un pouvoir économique qui n'est pas que lié à la retraite, mais qui est également lié à la vente, s'ils ont réussi à le faire, de leur commerce ou de leur entreprise. Chez les 75-84 ans, on va avoir des gens qui, pour la moitié, vivent en couple, mais l'autre moitié vit seul. Donc vous avez là un élément déjà conséquent de différence dans les arbitrages de consommation, notamment en termes de sociabilité. Lorsqu'on commence à vivre seul, la sociabilité se réduit fortement, les loisirs se réduisent également plus rapidement. On a ensuite des gens qui sont nettement moins diplômés, 50% de cette population est non diplômée ou titulaire d'un certificat d'études primaires au maximum. Donc votre manière de communiquer, comme je le disais tout à l'heure, doit changer. Puis ensuite, après le veuvage, les 85 ans et plus sont des gens qui sont très largement majoritairement seuls, très largement majoritairement des femmes aussi, hein, plus de 60% sont des femmes. Et on est sur des individus qui sont donc encore moins diplômés. L'autre élément qui nous a amené à choisir de refaire cette étude cette fois-ci, là, c'est que la dernière fois qu'on l'a fait en 2010, on avait des gens qui, pour les jeunes silver, étaient dans une situation économique particulièrement favorable. Ils avaient toujours connu une carrière complète en matière d'emploi. Ils avaient connu la possibilité d'avoir des crédits à taux réel négatif. Et donc, du coup, ils avaient un pouvoir d'achat qui était fort. On voit qu'avec les réformes des retraites qui ont été mises en place, avec le fait que le patrimoine soit assez peu rentable aujourd'hui, eh bien, on a des populations qui se retrouvent avec non pas des difficultés en matière économique, mais nettement moins de pouvoir économique que ce qu'on avait pu croire qu'ils auraient il y a même 5-6 ans encore. La crise est passée par là, et la réalité économique de ces situations des jeunes seniors est différente. Donc obligatoirement, leurs choix en matière de consommation vont devoir tenir compte de cette modification de leur pouvoir économique. Conséquence de tout cela, on voit que les 50-64 ans sont, là encore, les gens qui dépensent le plus, comme en 2010 en matière de consommation, sont ceux qui ont la part la plus importante des dépenses de consommation parmi les silver. À peu près 50% des dépenses de consommation des silver en moyenne sont faites sur cette classe d'âge. On a ensuite une grande croissance de 3 à 4% des dépenses de consommation qui aura lieu chez les 65-74 ans, qui font à peu près 15% des dépenses de consommation en 2025 des silver. Et puis après, très légère croissance chez les 75-84 ans avec 7% des dépenses de consommation et les 85 ans et plus qui restent la portion congrue aujourd'hui en matière de dépenses de consommation sans qu'il y ait une croissance prévue en 2025 de ces dépenses.
Merci Monsieur Luédé. Pour poursuivre, Monsieur Guillot, vous allez avoir plusieurs fois la parole, mais pour démarrer déjà, quelles sont, à travers les observations et les études que vous faites, les principales attentes aujourd'hui non satisfaites pour telle ou telle population silver ?
Alors, pour répondre à cette question, il faut d'abord souligner, je dirais, l'hétérogénéité de la population des seniors. C'est vrai que parmi les critères objectifs que l'on utilise, on utilise essentiellement l'âge réel de l'individu, mais aussi la cessation d'activité partielle ou totale, ou tout au moins progressive. Donc ça, ce sont des variables objectives, mais en fait, ces deux variables qui sont les plus facilement observables, y compris aussi les conditions d'habitat en fait, des seniors, ne sont pas suffisantes pour pouvoir rendre compte de leur consommation. Et donc c'est la raison pour laquelle, compte tenu de l'hétérogénéité, et du fait qu'à âge constant ou à situation égale, on va observer une très grande disparité donc au niveau de la consommation. Il faut tenir compte de cet aspect-là pour pouvoir évoquer les attentes non satisfaites. Alors effectivement, globalement, si on prolonge en fait les résultats en fait du CREDOC, effectivement, on va constater un certain détachement de la consommation. Je dirais qu'il y a essentiellement deux seuils qui ont d'ailleurs été évoqués précédemment. Je dirais 65 ans, qui correspond vraiment au seuil où une majorité d'individus sont à la retraite, mais pas forcément totalement. Et puis, effectivement, 75 ans, pour des raisons, je dirais, davantage liées à la santé. Et puis, ensuite, pour arriver aux grands aînés, c'est-à-dire, effectivement, à partir du seuil de 85 ans. Alors, globalement, ce qu'on observe au niveau des attentes, c'est que, en fait, il y a un recentrage de la consommation autour de quatre postes, je dirais, essentiels, les loisirs, les voyages, mais également la famille, une consommation aussi de soutien social et puis de la santé. Donc, en fait, selon les secteurs, on va avoir, je dirais, des attentes qui seront insatisfaites. Donc, c'est très difficile d'apporter une réponse globale. Mais si on se sent... je vais prendre deux exemples. D'une part, le secteur de la santé, où, globalement, en fait, on va observer, je dirais, des attentes insatisfaites qui sont liées, en fait, à la disponibilité, je dirais, des réseaux de santé. Donc, en fait, le problème est davantage local, parce que, comme vous le savez, il y a des régions où, effectivement, le système de santé est peu développé. Donc, globalement, c'est vrai que là où le système de santé localement est peu développé, bah, forcément, on va avoir davantage d'attentes insatisfaites. Bon, on pourrait souligner, c'est vrai que dans le domaine de la santé, tout ce qui touche à l'alimentation, il y a encore des choses à faire, ne serait-ce que sur les compléments alimentaires. Il y a aussi tout ce qui a trait à l'exercice physique également. Ça, c'est quelque chose d'important, et notamment la pratique de l'exercice physique adaptée, en fait, au vieillissement physiologique de l'individu. Donc là, il y a effectivement un certain nombre de points à souligner. Alors, effectivement, je vais prendre un autre exemple qui est celui de l'habillement, où, en fait, si on prend globalement la population des seniors, alors, si on prend les 50-65 ans, qui est effectivement la tranche d'âge la plus consommatrice parmi les quatre qui ont été délimités précédemment, même au niveau de cette tranche d'âge, si on prend le secteur de l'habillement, il y a vraiment des attentes insatisfaites, parce que finalement, cette population ne sait pas exactement, finalement, ne se retrouve pas, en fait, dans l'offre telle qu'elle est proposée. Donc, effectivement, je confirme tout à fait que le problème du déficit de l'offre, finalement, accroît la question des attentes insatisfaites, et donc explique finalement un certain déficit de consommation qui pourrait être...
Ça multiplie les opportunités, donc, d'avoir des offres nouvelles, à condition de bien les cibler. On reviendra sur un certain nombre de points, M. Guillaume. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Arnaud, donc, je voulais savoir, Richard, je voulais savoir, quand on parle de ces populations-là, de ce ciblage-là, quel écho ça a pour vous par rapport aux problématiques points de vente, par rapport aux problématiques online? Est-ce que ça en a ou pas? Ou comment est-ce que vous appréhendez ce que vous venez d'entendre? Peut-être Madame Morat?
Alors, nous, Vivadia, donc on est une galerie marchande sur le net. Donc, on propose 20 000 solutions, donc via des sites spécialisés. On est une sorte de petite Amazon aujourd'hui en ligne. Et ce qu'on remarque, c'est que depuis 10 ans, puisqu'on propose nos produits depuis une dizaine d'années, il y a une évolution aujourd'hui dans notre clientèle. On a des clients donc qui sont beaucoup plus à l'aise avec l'outil informatique pour commander. Il y a une dizaine d'années, donc nos clients demandaient par exemple des règlements par chèque. Aujourd'hui, donc les transactions par chèque diminuent de plus en plus. Et quand on a fait, par exemple, une enquête, on s'est rendu compte qu'ils nous demandaient donc de pouvoir nous régler par PayPal. Et c'est vrai que c'est quelque chose, à la base, qu'on n'avait pas du tout imaginé. Donc, on a un client qui est de plus en plus à l'aise, qui aime commander par sur le net. On a mis en place, par exemple, le chat il y a quelque temps. Et on a, alors ce qui est peut-être à voir différent avec d'autres sociétés sur Internet, on a des sessions de chat qui durent des fois une heure. On a le client qui regarde un produit, qui revient, à qui on donne un autre type de renseignement, un autre conseil, etc. et qui peut passer des fois vraiment très très longtemps en ligne.
C'est relativement coûteux malgré tout pour vous à mettre en place tout ça, non?
Je vous ai pas...
C'est relativement coûteux à mettre en place tout ça ou pas forcément?
Non, c'est, enfin, on fait tous nos développements en interne, parce que chez Vivadia, on a l'ensemble des compétences donc complètement internalisées donc, dans la, la société. Donc ce qu'on fait pour un site internet, on le fait également donc, pour tous les sites internet. Donc tout est déployé, par exemple les compétences chat sont déployées donc, sur l'ensemble des sites de notre galerie, galerie marchande.
D'accord. Mesdames Rosenblum et Montcellier, par rapport au point de vente, ce que vous avez entendu dire, parce qu'on a vu qu'on ne consommait pas la même chose. Il y a à la fois un problème d'intensité de consommation et de mode de consommation. Qu'est-ce que ça vous suggère comme réflexion, s'il y en a? Sinon, on poursuit.
On va vous montrer juste après un exemple concret. Vous parliez de déficit d'offres, notamment dans l'alimentation et dans les compléments alimentaires. On vient de travailler sur un concept qui est justement qui répond à ça. Et on va vous montrer quelques images que Sarah vous commentera. Moi, ce que m'évoque ce qui s'est dit juste avant, c'est qu'en fait, ce déficit dans le commerce physique, effectivement, ces attentes non satisfaites, elles sont valables pour les seniors, mais elles sont valables plus généralement. Et il y a beaucoup de remises en question aujourd'hui dans le retail physique, justement pour recréer de l'expérience, recréer des lieux de vie et fidéliser des clients qui répondent très précisément aux attentes des seniors, mais plus largement à tous les publics. Donc on parle beaucoup d'expérience en magasin, on parle beaucoup de lisibilité, on parle beaucoup de confort, de service,
on va avoir des
d'accueil,
exemples,
et c'est valable pour tout le monde. Je crois que les jeunes comme les moins jeunes attendent ça aujourd'hui.
D'accord, merci beaucoup. On a parlé, Monsieur Richard, et puis Madame Gérondi aussi en préparant cette conférence, des personnes qui sont autour des seniors, qui sont les prescripteurs, qui sont les acheteurs, qui sont les aidants. Comment est-ce qu'on peut les appréhender? Comment est-ce que vous travaillez ça? Je crois que Monsieur Richard, vous aviez dans le cas de Enjo quelques exemples de circuits qui étaient un petit peu différents du circuit direct que vous aviez imaginé pour la cible plus large de votre service.
Oui, effectivement.
Près du micro.
Nous, pour nous présenter, Enjo, on est une société de dépannage complètement digitale. Et donc c'est assez moderne, c'est assez en avance. Néanmoins, on était confronté justement à ce frein qu'on ne pouvait pas répondre aux attentes de tout le monde, puisque tout le monde, notamment les seniors, n'a pas de smartphone, ou il y a des difficultés à utiliser les outils modernes. Donc ne pouvant pas répondre à tout le monde, d'une part, on a développé notre produit pour vraiment le mass market, puisque le dépannage touche tout le monde. Mais ensuite, on s'est demandé comment on pouvait raccrocher les wagons et permettre à des gens qui n'ont pas accès à ça de pouvoir utiliser Enjo. La première réponse, c'était une expérience extrêmement simple qui permet à la famille, à un proche, à un voisin de commander pour vous, que ce soit à côté de vous pour vous accompagner ou même à distance. Pour prendre l'analogie la plus simple, si vous êtes sur Uber, vous pouvez commander pour votre grand-mère qui est dans le sud à Uber et lui dire en bas de chez toi, dans 5 minutes il y a quelqu'un, tu peux descendre, c'est payé, etc. Donc nous, c'est un petit peu la même philosophie de simplicité. Et la dernière chose, c'est qu'on a quand même besoin d'une certaine renommée pour ça, et du coup on a introduit le canal téléphonique qui permet de rassurer évidemment ces personnes et de pouvoir nous avoir en ligne, et soit on les accompagne dans leur démarche de commande, soit directement on sort de notre process initial et on commande pour eux et on fait quelque chose d'un petit peu ad hoc pour ne pas perdre une clientèle et nous on se lance, donc on a aussi besoin de tout client est bon à prendre et on doit avancer.
D'accord.
De toute façon
merci beaucoup Madame Morajoni, très rapidement parce qu'après vous allez développer votre expérience un peu plus loin dans la conférence, est-ce que la question des prescripteurs, des acheteurs pour compte de tiers est quelque chose que vous avez formalisé dans votre modèle et notamment dans votre interface?
Oui, parce qu'en fin de compte, je rejoins monsieur sur l'intérêt, sur notre approche, hein, sur le net également, de pouvoir proposer donc à des familles de commander par exemple un fauteuil releveur si la famille est dans le nord de la France et de le faire livrer donc à son parent dans le sud de la France. Donc le net aujourd'hui va créer de la facilité pour ce type de situation. Donc oui, il y a un intérêt. Également, donc par rapport aux familles, nous on apporte du conseil également. Parce que souvent, ce sont des aidants qui se trouvent dans une nouvelle situation, qui n'ont jamais appréhendé. parce qu'il faut acheter un téléphone à grosse touche et puis il faut savoir comment expliquer que maintenant il faut prendre un téléphone avec des grosses touches ou un GSM avec une touche SOS ou une CAN, etc. Donc là aussi, donc, on apporte du conseil et un soutien donc, aux familles pour les aider à faire un choix.
Merci beaucoup.
Je vous en prie.
On va essayer d'accélérer un peu parce qu'on est un petit peu en retard sur notre timing. Mais Monsieur Guillot, je voulais quand même vous donner la parole rapidement sur un point que vous aviez signalé quand on avait préparé cette conférence, c'était de dire c'est pas facile de s'adresser à des consommateurs seniors, il y a des difficultés, des paradoxes dans leur capacité à se reconnaître, il y a des nouvelles approches comme le bien vieillir. Quelques développements rapides avant qu'on passe au point de vente.
Bon, je dirais que effectivement communiquer et atteindre les seniors, je dirais dans le cadre d'une démarche commerciale, c'est pas évident parce que en fait, le senior, d'abord, il n'aime pas qu'on l'appelle senior. Bon, ça, c'est un premier point. Et surtout, il faut éviter toute approche ghettoisante du senior. C'est-à-dire qu'en fait, il n'aime pas se sentir ciblé. Et ce qui est très important, c'est que la notion de génération est extrêmement importante. C'est-à-dire que probablement, l'un des moyens, je dirais, de communiquer plus facilement au senior, c'est de communiquer avec lui, pardon, dans le cadre, je dirais, de la famille, dans le cadre d'une génération. En fait, les seniors, dès lors qu'ils sont entourés à la fois par leurs enfants, mais aussi leurs petits-enfants, bah déjà, ça change un petit peu, je dirais, la manière de communiquer avec eux. Donc je dirais, la particularité, c'est que, d'une part, ils ont le sentiment que les moyens commerciaux ne répondent pas suffisamment à leurs besoins et par ailleurs,
ils ne veulent pas être ciblés.
Alors, ce qui fait que ça pose énormément de problèmes.
On va voir comment ça peut se gérer au niveau de points de vente. Vous voulez bien venir montrer des cas. Et puis, je crois, Madame Rosano, vous aviez les cas qui vont être présentés, vous les avez sélectionnés à travers le prisme de votre approche, la méthodologie que vous développez pour concevoir des points de vente efficaces.
On a une approche, une méthodologie en trois étapes quand on crée un nouveau concept pour une enseigne. Donc il y a une phase de définition du programme, design, une phase de design à proprement parler et une phase après de réalisation. Et dans la phase de définition, on va bien sûr regarder de très près toutes les études disponibles sur le marché sur les attentes non satisfaites justement. Le mieux, c'est d'illustrer notre approche à travers le cas concret d'une enseigne qui vient d'arriver sur le marché, qui s'appelle Aequis, qui vient d'ouvrir son premier magasin la semaine dernière, tout près du Casino de Paris, donc dans le quartier des grands magasins et de la gare Saint-Lazare, qui est une enseigne qui travaille sur la nutrition santé, avec un accompagnement très fort. Et je vais laisser Sarah
bonjour,
présenter ça.
Bonjour à tous, donc moi ma mission c'est de vous montrer des concepts ou des idées qui sont en place dans les points de vente et qui sont tout à fait adaptés aux seniors, bien que, comme on le disait tout à l'heure, l'idée c'est pas de stigmatiser et que je pense que tout ce qu'on fera pour les seniors sera bénéfique à tous les autres consommateurs. Donc j'ai commencé par un exemple qui est l'exemple d'Acuity, qui n'est pas un concept qu'on a créé nous mais que je trouve intéressant. On est dans le domaine de la santé, on a vu tout à l'heure que la santé était pour partie des dépenses des seniors. Et ici, on va parler santé, on va parler optique et prothèses auditives, parce que c'est ce qu'on y vend, sans être dans un lieu anxiogène, froid, blanc, comme on peut l'imaginer pour d'autres acteurs de ce secteur d'activité. Donc l'idée à travers cette slide, c'est de vous montrer qu'on peut parler santé tout en créant et tout en ayant des magasins qui soient chaleureux, qui soient agréables. On voit ici qu'on a un éclairage aussi qui est satisfaisant, qu'on n'est pas noyé par l'offre. L'offre, elle est segmentée. Elle est présentée sur des mobiliers qui sont différents, qui créent un magasin qui va être vivant. Et on a des espaces de service qui sont aussi intéressants avec des tables, des grands miroirs. Donc voilà. Donc l'idée à travers l'exemple d'Aquitis, c'était de vous montrer qu'on peut travailler sur un concept qui touche à la santé tout en ayant et en créant un lieu qui soit agréable, chaleureux, clair, spacieux, et du coup qui fera que le consommateur restera dans le magasin et prendra du plaisir à acheter des produits qui ne sont pas toujours des produits de très très fun en fait à acheter. Voilà. Donc, le deuxième exemple, c'est l'exemple du Genius Bar d'Apple. On parlait tout à l'heure d'aide, de service, mais là on est clairement sur un produit technologique et l'idée à travers le Genius Bar pour Apple, c'est d'expliquer, d'aider, d'accompagner après la vente d'un produit le client à pouvoir l'utiliser. Donc là, on prend rendez-vous sur Internet et on va avoir un personnel qui est formé, qui va pouvoir échanger en direct avec le consommateur. Donc là, on a vraiment un échange qui est personnalisé et qui va pouvoir aider à résoudre les problèmes et parfois même aller jusqu'à résoudre des petites pannes. Voilà. Donc là, on a un espace dans un point de vente qui est un espace clairement de service, de formation, d'accompagnement qui va aider le consommateur. J'ai pris l'exemple d'Apple, mais il y en a beaucoup d'autres. Vous avez le magasin Boulanger, qui est un magasin de produits ménagers à Opéra, où on a un nouveau service dès l'entrée du magasin, qui est une conciergerie. Et à travers cette conciergerie, l'idée est d'apporter un tas de services qui vont aller de l'aide à la livraison, qui vont aller de l'aide à l'installation. On va vous trouver un plombier dans votre quartier, dans votre rue, voilà. Donc des services qui vont accompagner après l'achat et qui, je pense, sont des services qui sont très importants pour les seniors, parce qu'on ne connaît pas les commerçants, on ne connaît pas les artisans. Donc on a là des exemples d'accompagnement qui ne sont pas du commerce, mais qui sont des services qui sont très bénéfiques pour les seniors et encore une fois les autres consommateurs. Un autre exemple, c'est la cabine d'essayage virtuelle. Donc là, on est dans une cabine d'essayage dans laquelle on n'a pas besoin de se déshabiller. L'assortiment produit est présent sur un écran. Et en rentrant dans cette cabine et en se plaçant devant l'écran, seulement en touchant un produit sur l'écran qu'on aura sélectionné, il va s'afficher sur votre silhouette sur l'écran. Donc là, on a un service qui, encore une fois, est offert à tous et qui est, je pense aussi, très adapté aux seniors, parce que plus besoin de se déshabiller. Et au-delà du service qu'on rend aux consommateurs, on a aussi la possibilité pour le commerçant d'avoir beaucoup plus de produits dans cette donnée que de produits qu'il aura de présents dans son magasin. Donc en plus, il accroît à lui la possibilité de vendre des produits qu'il n'aura pas forcément dans son lieu physique. Et pour les cabines, il y a plein d'autres exemples. J'ai mis celui-ci. On sait qu'il y a aussi des cabines maintenant qui vont jusqu'à scanner votre silhouette et vont vous permettre de créer un produit sur mesure. Donc là aussi, on sait qu'à partir d'un certain âge, on peut avoir des besoins particuliers. Donc ces cabines, elles sont en train d'évoluer, elles sont en train de changer et de s'adapter aussi à de nouveaux besoins, et particulièrement ceux des seniors. Encore le domaine de la santé, Nathalie en parlait. Là, c'est un concept que nous venons, un magasin qu'on vient d'ouvrir, un concept qui tourne autour de l'équilibre alimentaire. Donc dans ce magasin, dans cette enseigne qui s'appelle iQuiz, qui signifie à l'équilibre, on va pouvoir bénéficier d'une consultation d'un nutritionniste et aussi avoir la possibilité d'acheter un ensemble de produits qui vont être liés au régime qu'on va devoir suivre. Donc on va avoir dans un même lieu une consultation santé et la possibilité d'acheter des produits, et on va le voir avec un travail qu'on a fait sur la signalétique et la prise de parole pour essayer de dédramatiser et d'accompagner au mieux le consommateur. Donc on voit sur les muraux ici qu'on a des panneaux de couleurs, et on va les voir plus en détail sur la slide suivante. Et ici, notre idée, ça a été de partir d'un besoin et de parler consommateur. On ne parle pas produit, on ne parle pas complément alimentaire, mais moi, quand j'arrive dans le magasin, si j'ai un problème de digestion ou un problème articulaire, grâce à un travail sur la couleur et un travail sur des pictogrammes très simples, je vais pouvoir m'orienter dans le point de vente vers les produits qui m'intéressent et qui vont répondre à mon besoin. Donc là aussi, d'un point de vue prise de parole dans la boutique, accompagnement et signalétique, il faut se mettre à la portée de nos consommateurs et leur parler un langage client qui va répondre à un besoin client. Donc voilà un exemple. Et là, on voit dans cette autre slide qu'on a travaillé sur des signalétiques à différents niveaux, des signalétiques hautes qui sont très visibles de loin, et ça qui vont aider le consommateur à se repérer dans le magasin, ce qui est important aussi, l'accompagnement et la lisibilité de l'offre, et un système d'accessoires qui va aussi permettre d'avoir tous les produits qui vont répondre à un besoin. Par exemple, je donnais l'exemple tout à l'heure des problèmes articulaires, mais sur mon panneau produits articulaires, je vais avoir des compléments alimentaires, mais peut-être un livre et peut-être d'autres produits qui vont m'aider à traiter mon problème. Donc un merchandising qui va être très facile et qui va permettre de mixer des produits pour répondre encore une fois à un besoin client précis. On a aussi ce cocon qui se trouve au milieu de la boutique, qui est l'espace dans lequel je vais pouvoir suivre ma consultation avec la nutritionniste. Et là, on est dans un espace aussi très chaleureux qu'on a voulu très ouvert, très transparent, On est dans la santé, mais on ne se cache pas dans un bureau pour parler. Et on est au centre de la boutique. Et autre service mis en place, un service de conférence. Donc l'idée, c'est d'aborder des sujets santé avec d'autres consommateurs, de faire venir les consommateurs en magasin sur des moments de trafic un peu moins élevés. Donc on va aussi profiter des baisses de trafic en magasin pour faire venir des consos à des moments précis. Et on va aborder certains sujets avec eux. L'idée à travers ça, à travers ces ateliers, parce qu'on a deux types d'ateliers aussi, on a aussi une cette table qui est une grande table qui va permettre de faire des ateliers cuisine, parce que quand on touche à l'alimentation, on va expérimenter des choses avec les clients en magasin. Nathalie disait tout à l'heure, les magasins aujourd'hui ne sont plus que des lieux de vente, ils sont des lieux d'expérimentation, d'accompagnement, de test. Donc l'idée autour de cette table atelier, ça va être de montrer aux consommateurs tout simplement comment utiliser un produit. On va le faire en groupe. Et ainsi, on va créer des communautés de consommateurs avec qui on va pouvoir expérimenter des choses et on va créer du lien social. Voilà. Donc on parlait aussi d'isolement. Voilà, à travers ces expériences, ces consultations, ces ateliers, ces conférences, l'idée pour l'enseigne va être de mieux comprendre les attentes de ses consommateurs, parce qu'au travers de ces ateliers, on va expliquer des choses, mais on va aussi avoir des retours. Et l'idée, encore une fois, c'est de créer du lien social avec ses consommateurs et de leur permettre de vivre en magasin d'expériences uniques qui va faire qu'un lien entre l'enseigne, la marque et le consommateur ne sera plus qu'un lien commercial, mais un lien beaucoup plus fort et fidélisé ainsi.
Merci beaucoup, ça valait la peine de prendre un peu le temps de voir tous ces visuels qui concrétisent un certain nombre d'idées. Donc ce que je retiens, ce qu'on avait échangé en préparant la conférence, c'était effectivement personnalisation, pas mal de conseils, du travail sur le zoning des points de vente, du travail sur les espaces de circulation, sur les éclairages, sur des zones particulières telles que les cabines. Et puis aussi, il y a une question qui est le langage que l'on tient, et je reviens à ce niveau-là vers M. Guillot. Quand on préparait cette conférence, vous disiez en fait, il faut avoir en tête que sur la majeure partie des cibles auxquelles on s'adresse, on a une problématique qui est la primauté du besoin et du désir. Donc comment est-ce que vous réagissez à ce que vous avez vu? Est-ce qu'effectivement, on a plus répondu à des besoins ou on a continué à travailler beaucoup du désir? Comment est-ce que vous voyez les choses?
Je dirais les deux. C'est effectivement non seulement répondre aux besoins, mais aussi susciter le désir. Alors, bon, il faut avoir conscience que les seniors sont de plus en plus informés. De par leur accès grandissant en fait à Internet. Hein. En fait, on a souvent le cliché que les seniors se débrouillent mal sur Internet. C'est complètement faux. Au contraire, je dirais qu'ils se débrouillent de mieux en mieux sur Internet. Alors bien sûr, ça dépend, je dirais, de l'âge, mais il faut bien avoir conscience que le senior, il est de plus en plus informé. Et donc, finalement, je dirais qu'il prépare son achat en ligne et il va conclure, je dirais, en magasin. C'est-à-dire qu'en amont, il a énormément... Il a consulté énormément d'informations. Et là, je pense que le travail des vendeurs, c'est justement de faire en sorte de lui faciliter la prise de décision d'achat, mais tout en agissant sur le registre ludique. Effectivement, c'est les exemples que vous avez présentés montrent bien ce caractère ludique. C'est-à-dire que non seulement on doit faciliter la prise de décision parce que le nombre d'informations ingurgitées par le senior au préalable est extrêmement important et finalement il peut se perdre, et en même temps, je dirais, il faut continuer à le faire rêver et donc le stimuler de façon sensorielle. Donc à partir du moment où on dispose d'outils de présentation qui non seulement présentent une information claire mais aussi ludique, sensorielle, eh bien effectivement là on va susciter le désir. Donc c'est les deux en fait.
À vous écouter, c'est vraiment le consommateur le plus exigeant qui demande de mettre en place la majeure partie des outils de séduction et de conviction. Madame Rosenbaum, quand on préparait la conférence, vous disiez qu'il y a, effectivement, comme le disait M. Guillot, l'achat se prépare avant l'arrivée au point de vente, mais il y a aussi comment est-ce qu'on poursuit la relation après. Donc vous avez évoqué l'idée de communauté, mais est-ce que vous avez pu observer des expériences de point de vente ou d'enseigne qui essaye d'embrayer sur ce qui se passe après qu'on ait quitté le magasin?
Oui, le parcours client, il se fait avant, pendant et après, ça c'est sûr. Donc on crée un concept, on intègre la totalité de ce parcours client et comment on va communiquer avec son consommateur après sa visite en magasin pour lui donner envie de revenir, pour entretenir ce lien. Dans le cas de ce concept, encore, oui. pour prendre des exemples concrets, il y a tout un système en fait, de santé connectée qui permet d'avoir son dossier santé en ligne et d'avoir ce suivi à distance. En fait. Donc il y a ce genre de choses. Pour ne pas parler des newsletters, des emailings et autres outils commerciaux et marketing. Mais,
d'accord. Merci beaucoup, Madame Mora Jaroudi et Monsieur Richard. Comment est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous retirez des éléments de réflexion pour le online, de ce qui s'est dit au propos des points de vente physiques, ou est-ce que ce sont vraiment pour vous des univers et des problématiques très différentes?
On a des retours, c'est-à-dire que le client qui achète chez Livadia, certaines fois, il a déjà vu un produit en magasin, dans une autre enseigne, ou l'inverse, c'est-à-dire qu'il nous appelle ou il se renseigne sur nos sites internet et il va aller finalement acheter le produit dans un magasin. Donc pour moi, le client, il est universel, il va, il vient... Voilà, c'est un client classique et de plus en plus classique.
Très bien. Ouais. Monsieur Richard, un commentaire? Non? Oui?
Pour nous, c'est un petit peu différent parce qu'on est complètement en ligne.
Oui.
Donc les problématiques sont vraiment différentes. Nous, on a plutôt une problématique de notoriété au départ. Et après, c'est sur tout ce qui est dépannage. Il y a beaucoup d'arnaques, notamment sur les seniors. Je l'ai vécu personnellement. Pour ma grand-mère, voilà, il faut qu'on joue là-dessus et que les gens qui vont prescrire notre solution soient au courant que justement avec notre solution, on évite ça et on est transparent.
Alors, vous allez garder la parole puisque justement on va passer à la partie sur les solutions, comment mettre efficacement des solutions e-commerce auprès des seniors. Dans le cadre de Enjo, donc qui n'est pas dédié aux personnes âgées, qui a un portail avec un service tout public de dépannage. Vous venez de dire, par exemple, des éléments de rassurance par rapport à la notion d'arnaque, etc. Est-ce que vous voulez nous expliquer un petit peu vos réflexions passées et éventuellement vos réflexions à venir sur la façon de prendre en compte les comportements et les besoins des seniors par rapport à ce service, en sachant que c'est quand même une sous-segment de votre clientèle, ça?
Alors c'est pas vraiment un sous-segment parce que finalement on touche toutes les personnes qui habitent quelque part et qui peuvent avoir un problème de dépannage chez eux. C'est vrai que comme on a une solution digitale, naturellement on s'oriente plus vers ceux qui ont déjà un smartphone et qui savent l'utiliser. Ça a le vent en poupe, mais les juniors d'aujourd'hui seront les seniors de demain, et du coup cette problématique du comportement des seniors dans quelques années ne se posera plus puisque ça sera assez naturel de faire des commandes via le smartphone. Donc là on est sur une période un petit peu tampon où on essaye de satisfaire le plus de monde possible sans trop dévier de notre modèle initial qui est 100% digital. Et donc pour ça, du coup, le canal le plus simple a été le téléphone qui permet vraiment d'accompagner ces seniors. Là encore, j'avais une personne au téléphone il y a quelques jours où on voit qu'il y a des difficultés. Alors c'est vrai qu'il y a un accès à la formation quand les personnes sont seules derrière leur ordinateur. Après, la transformation est plus difficile. J'ai passé une demi-heure au téléphone avec quelqu'un qui n'arrivait pas à rentrer son mot de passe parce qu'elle n'arrivait pas à voir si la touche majuscule était enfoncée ou pas sur son clavier. Donc voilà, on est sur des freins parfois qui sont extrêmement simples, mais qui sont réels. Donc voilà, il faut qu'on arrive à améliorer l'expérience.
Aujourd'hui, vous nous avez expliqué que vous gériez ça par le téléphone, ce qui est un peu lourd. Effectivement, est-ce que vous envisagez d'intégrer des fonctionnalités ou des éléments de langage spécifiquement tournés et appropriés aux seniors sur votre portail?
Non. Alors, les éléments de langage, c'est vraiment la réassurance, mais ça touche pas que les seniors. C'est vraiment des engagements forts qui vont être de la transparence sur des prix, des engagements forfaitaires, le fait de pouvoir suivre l'arrivée de son prestataire chez soi sur l'écran, de savoir qui intervient, il y a une forte réassurance là-dessus. Après, sur le changement total des modèles,
pas total, mais au moins
adapté. Pas total, on s'adapte. Mais c'est vrai que sur ces modèles-là, le canal téléphonique, malheureusement, est un canal qui coûte très cher, qui prend beaucoup de temps. Et du coup, il y a aussi une concurrence des prix qui fait qu'on ne peut pas tout intégrer non plus.
Merci. Madame Moragiondi, donc vous avez un portail qui est vraiment dédié à des produits spécialisés dans des produits destinés aux seniors. par rapport à ce que l'on a dit des sensibilités, des caractéristiques des publics, vous aviez dit, quand on réfléchit vente online, pour des seniors, il y a un certain nombre de besoins particuliers qu'il faut prendre en compte sur le design, sur les moteurs, etc., tous ces fonctionnements. Est-ce que vous voulez bien les développer un petit peu?
La particularité d'Internet, c'est qu'on peut offrir des centaines, des milliers de produits sans les avoir physiquement dans un magasin. Donc tout à l'heure, on a échangé ensemble, par exemple, sur des cannes de marche. Si vous allez dans une pharmacie, vous allez pouvoir acheter une canne de marche noire, grise. Et aujourd'hui, nous, on a un site internet, par exemple, qui s'appelle le canne de marche, et on propose 1000 cannes de marche en ligne. Donc il y a des cannes de marche avec des fleurs, avec des fruits, roses, vertes, rouges, et on a même des clientes qui nous envoient des mails en disant, écoutez, lorsque vous allez mettre en ligne de nouveaux modèles, prévenez-moi, comme ça j'en achèterai 4, 5, 6 pour assortir à mes tenues. Donc ça, c'est vraiment du vécu. À partir d'un objet qui est nécessité, on crée aussi le désir d'avoir une jolie canne de marche. Voilà, donc ça, c'est des retours d'expérience. Et je voulais juste poursuivre un petit peu sur les éléments de langage que vous avez évoqués tout à l'heure. C'est vrai qu'il faut savoir s'adapter aujourd'hui au langage des seniors sur le net. Et je cite juste une petite anecdote. C'est une cliente l'autre jour en ligne qui nous disait, mon adresse email, c'est mon nom, etc. Petit escargot, et ça voulait dire @. Voilà.
Et sur des aspects plus techniques, on avait parlé ensemble de simplicité du design, de toutes les informations sur une seule page, etc. Est-ce qu'on peut lister quand même un certain nombre de retours d'expérience que vous avez et de bonnes pratiques que vous pouvez recommander?
Oui. Par exemple, on a un site internet qui est dédié à un fabricant donc de fauteuils releveurs. Donc ce fabricant a 10 000 combinaisons possibles de fauteuils releveurs. Donc aujourd'hui, sur nos sites, on a mis en place donc des filtres, des moteurs de recherche, pour que si un client désire acheter un fauteuil releveur jaune citron ou parme ou rose bonbon assorti à son intérieur, aujourd'hui c'est possible sur nos sites internet. Donc on a par exemple colorisé des fauteuils qui peut-être jamais n'ont été fabriqués par la société qui a conçu donc l'ensemble de toutes ces combinaisons. Donc ça, c'est des choses qu'on peut aujourd'hui faire sur le net et qui jusqu'à présent n'étaient pas possibles, ils ne sont pas possibles dans un magasin physique.
D'accord. J'ai entendu au passage donc des petites anecdotes sur est-ce que je suis sur la touche majuscule ou pas, les codes secrets, la passation de commande, tous ces aspects-là sont aussi des choses critiques, je pense. On peut avoir des abandons.
Alors, quand on a démarré la société, on pensait que les clients allaient peut-être avoir des difficultés à commander en ligne avec une carte bancaire, et alors pas du tout. Je pense que les seniors avaient déjà l'expérience de la commande via les grandes enseignes de la VPC. Donc donner un numéro de carte bancaire, par exemple, c'était pas du tout un problème de le donner à un inconnu au téléphone. Par contre, son adresse email, c'est beaucoup plus difficile parce qu'ils ont peur de recevoir de la publicité en ligne, etc. Donc voilà, donc ça demande aussi une certaine adaptation. Adaptation aussi dans le langage. Comme je disais tout à l'heure, on a mis le chat en ligne au mois de janvier. On ne savait pas du tout si ça allait prendre ou pas, mais on s'est rendu compte que petit à petit, le nombre de sessions allait augmenter parce que les clients, les prospects venaient, ils revenaient, puis à un moment, ils testaient et ils se connectaient donc avec une session chat. Et là encore, on a une cliente qui l'autre jour nous disait « Mais je vous ai parlé par la fenêtre la semaine dernière. » Voilà.
D'accord. Donc c'est très important et très utile. Merci beaucoup. Justement, ce chat-là, c'est une façon d'écouter les seniors. Donc, on a ici des personnes d'études dont c'est vraiment la spécialité. Mais vous, dans la pratique, vous pouvez aussi avoir ça. Comment est-ce qu'on peut réellement bien tester des supports de communication, des sites de e-commerce, valider des hypothèses que l'on fait d'aménagement de magasins, de choses comme ça? Voilà, vos conseils à vous, peut-être les hommes de l'art et puis les gens de la pratique.
Je dirais le meilleur moyen, et c'est ce qu'on fait, dans le domaine de la recherche et des études, c'est l'expérimentation. C'est-à-dire qu'en fait, on expose les individus à des stimuli, Et puis on observe en fait leur réaction, on fait varier différentes modalités de stimuli pour voir comment ils réagissent. Donc pour moi, c'est l'expérimentation.
D'accord. Monsieur Védé ?
Je serais totalement d'accord. En effet, l'idée, c'est de pouvoir voir ce qui peut être le plus utile dans différentes situations. Donc en fait, on va mettre les consommateurs en face de différentes possibilités avec le même problème qu'ils doivent résoudre. Et on voit ce qui fonctionne le mieux.
D'accord. Donc c'est du test, en fait. Hein. C'est du test expérimentation. Au niveau des points de vente, est-ce que il y a des façons de travailler ? Est-ce qu'on peut inclure dans les études préparatoires consommateurs ou dans les tests de magasins pilotes ce genre de population, comment est-ce que vous réfléchissez à ça?
Oui, on le fait. On travaille toujours à partir d'une cible client. Donc on sait à qui on parle. Et en fonction de cette cible, on va mettre en face des services, comme je disais tout à l'heure, un type d'organisation du magasin. On a parlé de zoning, qui va aussi répondre aux besoins de cette cible en particulier. Mmh. Et un merchandising également, c'est-à-dire que la façon dont on va présenter les produits et les mettre en scène dans le magasin va être différent suivant la cible qu'on veut atteindre.
Est-ce que dans le cas de Equis, par exemple, ou Equis, je ne sais plus comment ça se prononce, vous avez fait des tests dans le magasin ou sur des planches?
Non, en fait, on fait un test grandeur nature. On est obligé d'ouvrir un premier magasin pilote, de regarder comment ça se passe, si les hypothèses qu'on avait prises étaient les bonnes, voir comment réagissent les clients et faire, on a une période de ce qu'on appelle de mise au point, d'ajustement, avant de passer en phase de déploiement.
D'accord.
Donc en général, il nous faut deux ou trois mois.
Et pour la partie online, alors comment est-ce qu'on travaille, comment est-ce qu'on teste des choses par rapport à des cibles précises? Là, on parle des seniors.
Je pense que le plus important, c'est déjà d'avoir aucun a priori.
D'avoir
aucun a priori,
oui.
De tester, de revenir, de refaire, de défaire. C'est moi le plus important. Et puis d'être à l'écoute des clients, d'écouter leurs attentes et après de voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on peut donc interpréter leurs demandes et qu'est-ce qu'on peut leur proposer.
D'accord, monsieur Richard.
Pour compléter, je suis complètement d'accord avec ça. L'avantage du online, c'est qu'on peut aussi présenter à 50% de la population un élément et 50% de la population l'autre élément, et on a très vite des résultats. Donc nous, on a plusieurs canaux de commande, donc on sait celui qui marche le mieux. Et il y a aussi l'anticipation qui va permettre de savoir, de se dire, tiens, dans quelques années, la manière de commander, ça sera ça. L'exemple qui m'a le plus frappé dans ma carrière, c'est finalement chez Uber, où on aurait demandé à l'ensemble de la population ici est-ce que vous voulez réserver votre Uber à l'avance ? Tout le monde aurait levé la main. Et la vision, c'était de dire, finalement, il y aura tellement de Uber partout qu'il n'y aura pas besoin de réservation puisque vous aurez un Uber à 5 minutes de chez vous partout. Et finalement, ça, cette vision de dire, moi, ma vision, c'est de dire qu'on commandera un dépannage en ligne via smartphone, c'est l'avenir. C'est ça aussi qu'il faut pousser et inciter les gens aussi à transformer leur manière de consommer.
À créer la demande, en fait. Hein. C'est comme Nespresso. Hein. S'ils avaient écouté toutes les études de marché, ils n'auraient pas fait.
On n'aurait jamais lancé Nespresso.